Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin, Elliot Baucher et Gwendoline Troiano. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Morgane Danon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration des coulisses de l'entreprise. Hier, nous avons imaginé un nouveau partage du pouvoir entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés. À présent, c'est le rôle et la place de l'entreprise dans la société que nous allons examiner. Pour un nombre croissant de firmes, la recherche du profit ne suffit plus. L'entreprise se donne désormais une nouvelle mission, celle de contribuer au bien commun à l'heure des grands défis sociaux et environnementaux. Des initiatives progressivement encadrées par le droit qui témoignent peut-être d'une prise de conscience des entreprises, à moins qu'il ne s'agisse, comme le dénoncent certains, d'un simple exercice rhétorique. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la raison d'être de l'entreprise en compagnie de Nadine Levrato, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Economics et autrice avec Sophie Boutillier et Denis Carré des écosystèmes entrepreneuriaux rencontres entre entreprises et territoires, paru aux éditions East. Avec nous également Armand Atchuel, professeur en sciences de gestion à Mines Paris Tech et co-directeur avec Blanche Ségrestin, Kevin Levillain et Stéphane Vernac de cet ouvrage « La société à objet social étendu » paru aux presses des mines. À 14h50, Xavier Martinet nous donnera, comme chaque jour, des nouvelles de l'écho.
Je suis devenue, pour pas si dire, une machine, parce que j'ai commencé à l'âge de 17 ans dans mon travail à la chaîne, et j'ai fait toujours le même travail, et ce que ça fait, c'était toujours, on accélérait la chaîne pour pouvoir, et on est devenu robot, pour pas si dire, des robots. Ouais. On suit le rythme des machines.
C'est votre impression, c'est que vous êtes devenue une machine ?
Oui.
Tout ce que l'équipe pouvait faire ou tous les salariés de l'entreprise est mesuré en temps. Telle action égale tant de temps.
Oui.
Et peu à peu, avec le temps, les standards se sont diminués. Mmh. Au lieu de mettre 4, bah vous mettrez 3.
Moi, je veux que ça s'arrête. Moi, je veux travailler dans de bonnes conditions. Parce que rentrer chez moi en ayant... c'est le premier qui bronche, quand on prend plein la tête, ça, j'en ai raffole. Dans l'état que je suis.
Bonjour, Nadine Levrato et Armand Atchuel.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre plusieurs témoignages, extraits du documentaire de Sophie Bruno et Marc-Antoine Roudil, sorti en 2006, et qui dénonce les souffrances endurées au travail, le burn-out, le bore-out, l'ennui au travail, ou encore le brown-out, la perte de sens. Voilà des mots MAUX qui sont désormais connus et que les entreprises ne peuvent plus ignorer, Armand Atchuel.
Oui, le témoignage qu'on vient d'entendre, évidemment, nous touche directement, mais peut-être aussi faut-il le replacer dans une histoire un peu plus longue. Au fond, l'entreprise est contestée quasiment dès sa naissance, à la fin du 19e siècle, sur un peu ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire sur les conditions de travail. Mais cette contestation va au-delà aujourd'hui des conditions de travail. Vous avez évoqué la raison d'être, et la raison d'être, c'est intéressant de le noter, n'est pas du tout une expression du langage classique. Vous pourrez ouvrir beaucoup de traités économiques sur l'entreprise, vous ne trouverez pas raison d'être. En fait, c'est une invention du droit français, je crois qu'il faut le signaler, puisqu'elle est inscrite dans le droit français depuis à peine 2 mois, depuis la fin du mois de mai, et les décrets d'application sont en cours.
De la loi Pacte, donc depuis l'entrée en application de la loi Pacte.
Qu'est-ce que marque cette invention juridique quand même intéressante ? Elle marque la prise de conscience que la responsabilité de l'entreprise ne, bien sûr, porte sur l'objet social, sur le travail, sur les conditions effectives de vie dans l'entreprise. Mais pas seulement. La question, par exemple, de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité des entreprises, il ne faut pas l'oublier, commence dès les années 60 avec les marées, pétrolières et les marées noires.
Alors, on va parler évidemment de la responsabilité sociale des entreprises, mais d'abord un mot, Nadine Levrato, sur cette quête de sens que l'on observe de plus en plus, en particulier parmi les jeunes générations, une quête de sens au travail et aussi une exigence croissante vis-à-vis du rôle environnemental que les entreprises devraient jouer.
Alors, la quête de sens dans l'entreprise, elle est inhérente à l'entreprise même, puisque le mot entreprise, étymologiquement, c'est une aventure, c'est un projet. Donc il y a forcément un objectif à toute aventure entrepreneuriale. Ensuite, cela se formalise la plupart du temps par la mise en commun de capitaux par des actionnaires ou des associés pour créer une entité qui va être indépendante d'eux-mêmes, mais qui va remplir cette mission ou son objectif.
Mais force est de constater que ce sens s'est perdu, ou au moins il semble s'être perdu.
Alors, cela dépend pour qui, puisque les participants à l'émission d'hier ont rappelé le fameux article de Milton Friedman selon lequel la mission de l'entreprise est de faire du profit. Progressivement, ce discours sur une vision très financière et actionnariale de l'entreprise s'est déplacée. On a vu apparaître d'autres parties prenantes qui manifestaient leur rôle, leur intérêt et leur participation à la vie de l'entreprise et à ses résultats. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans l'intégration de ces demandes.
Mais ce qui est intéressant pour finir peut-être ce premier diagnostic, c'est qu'on a d'un côté une montée des exigences sociales et environnementales de la part de la société civile, et en même temps rémunérations aux actionnaires, des dividendes qui n'ont jamais été aussi importants, qui atteignent des sommets, alors même qu'on est dans une période de ralentissement économique mondial, Nadine Levrato.
Bien entendu, la répartition de la valeur ajoutée, hein, vieux problème de toute l'analyse de l'entreprise, donc répartition entre qui ? Entre salaire et profit, principalement, fait partie du premier niveau de conflit à l'intérieur de l'entreprise. Et on voit aujourd'hui que la gestion des contradictions entre l'augmentation de la part des profits d'une part et le discours sur la responsabilité ou la mission est en train de se réduire, puisqu'on arrive à avoir les deux en même temps.
Alors on est peut-être à un point d'inflexion aujourd'hui, Armand Hatchuel, et c'est en tout cas à ces différents défis que la RSE, depuis un certain temps déjà, entend répondre.
Alors tout à fait, et Nadine Levrato a tout à fait raison de rappeler que dans le terme d'entreprise, il y a un projet. Mais pour autant, et là nous sommes obligés de le reconnaître, la langue, la manière de décrire l'entreprise, dans le savoir savant, n'a pas du tout été celle-là. L'entreprise comme aventure collective, comme création collective, ce n'est pas du tout ce qui est dans la doctrine commune. Ce qui fait qu'un des grands paradoxes de la RSE, il est dans le dernier des œufs, celui qu'on ne prononce pas, responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Mais vous avez sûrement évoqué hier, de qui parle-t-on ? Quel est donc ce sujet dont on parle ? Or, dans la modernité libérale, et dans la construction même de la langue sur l'entreprise, le capital, le travail, il n'y a pas de sujet entreprise.
Mmh. C'est un impensé, l'entreprise, et c'est en train de changer pour vous, Armand Hatchuel.
Absolument. D'abord, il faut, le rôle des chercheurs, c'est d'abord de faire remarquer qu'il y a eu un grand impensé. Je voudrais citer un ouvrage dirigé par Blanche Segrestin et Kevin Levillain qui s'appelle « L'entreprise, point aveugle du savoir ». On a fait un énorme colloque, on a invité des juristes, des économistes, des sociologues pour reconnaître qu'en fait, dans la grande geste qu'on nous dans laquelle on a baigné, il y a le capital, il y a le travail, il y a des facteurs, l'entreprise n'était pas un sujet. Et là, vous voyez que la question de la RSE la plus intéressante, c'était à qui s'adresse-t-elle ? Si vous dites que ça s'adresse au patron, alors là, ça va plus du tout lorsque vous êtes évidemment dans une économie financiarisée où les patrons sont éminemment dépendants d'un marché financier du capital, sont éminemment dépendants de la manière dont ils sont nommés. Et c'est pas surprenant, si vous voulez, que la RSE, finalement, est étrangement aboutie à son presque un débat inattendu. Qu'est-ce que l'entreprise ? Et ce qu'a fait la loi Pacte, c'est de dire cela.
Et alors justement, la RSE entend notamment répondre aux intérêts, à l'utilité, comme on dit en économie, de tous ceux qui participent de près ou de loin au monde de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Armand Hatchuel, d'où vient cette responsabilité sociale des entreprises ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle est l'héritière de la philanthropie des hommes d'affaires du 19e siècle, de la première moitié du 20e siècle ?
Alors, il y a une longue histoire de cette question. Je ne retiendrai pas nécessairement la philanthropie, pas du tout. Je pense qu'il faut plutôt prendre une date très importante, et tout le monde va le comprendre, c'est les accidents du travail. Voilà. Au fond, dans le monde, jusqu'à 1897, grosso modo, un ouvrier vient avec ses outils, il se met à travailler pour un patron, et s'il lui arrive un accident, c'est de sa faute, c'est tout. C'est un mauvais professionnel, d'une certaine manière. Et là, il y a une loi absolument intéressante, pour notre débat aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante, puisque au fond, la première responsabilité des patrons, qui a été reconnue légalement, c'est de dire, oui, c'est pas vous le patron, vous n'êtes pas la cause de l'accident, mais vous êtes l'organisateur d'un monde dans lequel cet accident a eu lieu. Et vous voyez que là, c'est peut-être la matrice même de la RSE, c'est de dire, l'activité de l'entreprise crée une responsabilité. C'est pas le statut de société qui crée une responsabilité, c'est l'activité de l'entreprise qui crée la responsabilité.
Et pour vous, Nadine Levrato, quelles seraient les origines de la RSE, qui est un concept qui est quand même particulièrement peu aisé à définir?
Alors, bien entendu, les éléments mis en avant par Armand Hatchuel sont tout à fait légitimes. Il y a un autre contexte qu'il faudrait également évoquer. Il n'est pas dû au hasard que la RSE naisse dans un contexte d'économie de plus en plus libérale. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les entreprises vont s'emparer de la question de la gestion du bien public, des intérêts collectifs, en suggérant très fortement aux États, aux gouvernements, de réduire la voilure sur la réglementation, les obligations, les contraintes, au motif qu'elles seraient à même d'entamer des réflexions et de produire des actions pour mieux défendre le volet social et le volet environnemental. Donc il y a tout cet aspect de la RSE qui finalement vise à vider une partie de la substance des interventions gouvernementales pour donner aux entreprises le soin de gérer une partie de ce bien public. Et là, ça introduit une confusion des genres qui, on le verra probablement plus tard, peut se révéler gênante.
On va y revenir, mais alors je vous propose d'abord d'écouter Jacques Higgalens. Il est professeur à la Toulouse School of Management.
La Commission européenne définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Alors vous voyez, on est passé d'une notion qui était un peu périphérique, la notion d'intégration volontaire, à une notion qui est un peu plus centrale. Les effets que l'entreprise exerce sur la société, qu'ils soient positifs, bien sûr, la création de richesses, les emplois, qu'ils soient négatifs. Et je crois que ça a été un peu le premier pas vers la RSE 2.0, parce que la RSE 2.0, c'est de ne plus envisager la RSE, j'allais dire, comme une préoccupation, comme une couche supplémentaire qu'on ajoute à la gestion des entreprises, mais c'est vraiment intégrer la RSE dans l'ADN de l'entreprise. C'est passer d'une RSE cosmétique à une RSE stratégique. C'est en quelque sorte aligner la création de valeur, aligner les processus de production, de distribution avec les exigences de la RSE.
Voilà, certaines entreprises essayent aujourd'hui d'aller plus loin, d'aligner la création de valeur avec les exigences de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, comme le dit ici Jacques Higgalens, Armand Hatchuel.
Mais écoutez, je suis là plutôt pour dire que ce mouvement-là, eh bien c'est ce mouvement-là qui ne s'est pas fait comme on le voudrait. Et c'est pour ça que la loi a dû intervenir. Et là, je voudrais me faire l'écho d'un mouvement de chercheurs auquel j'ai appartenu, autour du Collège des Bernardins, qui a participé à finalement dire, au fond, la RSE considérée comme une espèce de capitalisme éclairé, dans lequel, au fond, les patrons spontanément y viendraient, eh bien cela, il faut constater que ça n'a pas eu l'ampleur attendue, et peut-être permettez-moi d'y être sensible, le drame du Rana Plaza, qui est une des plus graves catastrophes de l'industrie textile de l'histoire, a un peu marqué un moment.
Au Bangladesh, tournant, en 2010, il faut le rappeler.
On est aujourd'hui, je dirais, dans une séquence tout à fait différente. Et c'est ça qui me semble pas devoir partager. C'est qu'est-ce que l'entreprise ? Partons à l'envers. Demandons-nous qu'est-ce que l'entreprise ? Demandons-nous d'ailleurs même si ce qu'on a dit de l'entreprise depuis longtemps est bien juste. Et là, il y a quelque chose qui apparaît. Et Igalens, notre collègue Igalens, a parlé d'effet. C'est tout à fait intéressant, ça. Parce que tout d'un coup, l'entreprise n'est plus un simple agent économique, dont l'effet serait de faire circuler la marchandise. On s'aperçoit qu'elle est un acteur de civilisation. Et là, le mot a l'air un peu gros, mais c'est tout à fait exact. Regardez dans quelle époque nous vivons. Ce n'est pas l'État qui a inventé le smartphone. Ce n'est pas l'État qui a inventé les chemins de fer. Donc en fait, se priver des entreprises et penser que le seul bien public viendrait de l'État, même l'État au fond a considéré que ce n'était plus la civilisation dans laquelle on était.
Mais pour vous aujourd'hui, Armand Etchol, il faut que le droit intervienne, parce qu'il faut tout de même souligner, par exemple, qu'il y a eu une reconnaissance de la RSE par la Business Roundtable, le lobby conservateur des dirigeants des grandes entreprises américaines. Est-ce que ça, ce n'est pas le signe d'une avancée déjà importante ?
Alors vous devriez, vous avez raison de signaler la Business Roundtable, il faut lire aussi les réactions à cela. Au fond, qu'est-ce qu'on a eu ? Une espèce de scepticisme de bon aloi. Autrement, on a dit oui, les patrons ont senti l'air du temps. Et je crois que, d'une certaine façon, ce scepticisme marque la séquence dans laquelle on est. Et on y reviendra sûrement. La loi Pacte, c'est une invention française qui devrait dater. Parce qu'au fond, ce qu'elle dit, c'est jusqu'à présent, nous n'avions pas inscrit l'entreprise dans le droit. Nous n'avions pas inscrit l'activité de l'entreprise dans le droit. Si on inscrit l'activité dans l'entreprise dans le droit, alors on peut théoriser la responsabilité.
Alors venons justement à la loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises adopté en avril dernier et qui a permis à la notion de raison d'être de l'entreprise d'être introduite dans le Code civil.
Pour moi, la raison d'être, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est ce qui lui donne toute sa profondeur en donnant le sens de la continuité. Mais cette raison d'être exprime toujours la substance de l'objet social de l'entreprise. C'est ce qui lui donne corps, c'est ce qui lui donne cette force, ce souffle, qui, en principe, concourt à l'engagement des salariés d'une entreprise. C'est un peu, à la fois, le signe de la racine, mais en même temps, l'étoile polaire. Vers quoi l'on va ? Pourquoi est-ce qu'on travaille dans une entreprise ? C'est ça, sa raison d'être. Et si ce corps de logique est respecté, alors la force de l'entreprise est absolument exceptionnelle. L'engagement des salariés, des personnes, des collaborateurs est absolument accentué. Et à la fin, j'ai des convictions absolument profondes, c'est quand même un vecteur fondamental de la compétitivité des entreprises.
Voilà, Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, également co-auteur avec Nicole Nota du rapport sur le rôle de l'entreprise. Une réaction à ces propos, Nadine Levrato, la raison d'être de l'entreprise, pour vous, c'est une petite révolution ?
Une petite révolution, oui.
Une très petite révolution.
Une toute petite révolution, car, comme je le rappelle, une entreprise a une raison d'être, c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, qui fonde l'existence même de l'entreprise. Quant à l'introduction de la notion de raison d'être dans la loi Pacte, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est assez floue, cette raison d'être. D'une part, pourquoi faut-il déclarer une raison d'être ? Est-ce que les entreprises qui ne déclareront pas de raison d'être n'en ont pas ? Première question, donc qu'y a-t-il en creux ? Et d'autre part, lorsque l'on voit les raisons d'être de certaines entreprises, alors j'ai en tête le cas de Danone, dont la raison d'être est de nourrir dignement et de manière durable les populations du monde, très bien, évidemment, puisqu'ils produisent des aliments, mais comment va-t-on vérifier ? Comment va-t-on mesurer ? Comment va-t-on évaluer que cette mission est effectivement et correctement remplie.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que les entreprises peuvent se choisir une raison d'être sur une base volontaire, Armand Etchol, et effectivement, ça pose un certain nombre de questions.
Oui, tout à fait. Alors, la raison d'être, on vient d'entendre Jean-Dominique Sénard, qui a été l'un des co-auteurs d'un rapport qui a joué un rôle très important dans la loi Pacte, hein, qui est l'entreprise objet d'intérêt collectif. Et la raison d'être figure aujourd'hui dans la loi française. Je me permets d'y revenir, puisque la raison d'être, les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituer des principes dont la société se dote et pour lequel elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
Donc la révolution, c'est que ce n'est plus que la recherche du profit qui apparaît dans la loi française.
En tout cas, aujourd'hui, ce que modifie la loi, c'est qu'on ne peut plus dire d'une entreprise qui a énoncé sa raison d'être qu'elle n'est décrite que par la maximisation du profit. Maintenant, on peut, et Nadine Levratois a tout à fait raison, dire pour l'instant, c'est assez symbolique. On va voir, on va juger sur les actes, mais Nadine Levratois et moi, on est des chercheurs, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé d'analyser les doctrines. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus enseigner dans l'ensemble des disciplines qui parlent de l'entreprise sans au moins remarquer une modification importante du code du commerce et du code civil sur ce point.
Et une modification qui n'est peut-être pas si symbolique que cela. On l'a vu aux résistances importantes que la modification du code civil et la création de ce nouveau statut juridique, donc cette société à mission, avait pu entraîner.
Alors oui, il y a eu des difficultés à faire entrer dans le droit cette notion d'entreprise à mission. Tout d'abord parce que il y avait des craintes qu'elle soit trop restrictive ou trop exigeante. D'autre part parce que les ONG, les associations et l'économie sociale et solidaire trouvaient que elle avait un côté terriblement cosmétique, qui pouvait même nuire à l'engagement sociétal de certaines entreprises.
Oui, il y a eu une tribune, 13 représentants d'ONG du secteur, effectivement, du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui ont dénoncé dans Le Monde la confusion que créait la création de ce statut de société à mission.
Au-delà de cela, la société à mission, et pas l'entreprise à mission, parce qu'il n'y a toujours pas de définition de l'entreprise dans la loi Pacte, la société à mission est une transposition ou une adaptation du droit de la common law, du droit anglo-saxon, demande à l'entreprise de défendre les intérêts d'individus, au premier rang desquels les actionnaires. Mais en France, il n'a jamais été interdit, aucun dirigeant n'a jamais été interpellé ou jugé parce qu'il avait augmenté les salaires des employés, parce qu'il avait entrepris des actions de mécénat ou parce qu'il distribuait de l'argent au milieu associatif. Donc les critiques, une partie des critiques de la société à mission vient de ce point-là aussi. En quoi, quel est l'apport net, quelle est la valeur ajoutée de l'introduction de ce complément dans le code de commerce par rapport au fonctionnement effectif des entreprises.
Alors Armand Hatchuel, est-ce que ça ne crée pas plus de confusion? Puis on a pu entendre aussi des peurs d'assister à une inflation réglementaire.
Oui, toutes ces craintes sont justifiées. Mais elles tombent les unes après les autres si d'abord on restitue la séquence dans laquelle on est. Vous l'avez évoqué, explosion des salaires des dirigeants, stagnation des salaires, et surtout, vous en avez marqué le tempo avec votre introduction, en tant que spécialiste des sciences de gestion, j'ai vu l'introduction d'un management tout à fait déformant, tout à fait néfaste pour la vie au travail. Donc, je dirais, on aurait une discussion irénique sans cette séquence-là. Oui, au fond, pourquoi introduire cette complexité? Mais là, maintenant, nous sommes obligés de constater que, à la fois, un appareil doctrinal diffusé dans tout le monde savant a rendu possible une déformation du capitalisme qui était imprédictible il y a à peine 30 ans. Vous auriez dit, dans une émission sur l'entreprise, qu'un dirigeant allait être payé 500 fois ou 1000 fois le salaire d'un cadre, les gens auraient été sceptiques. Donc il y a bien une transformation du capitalisme qui a rendu, en quelque sorte, le droit, tout d'un coup, on s'est rendu compte que le droit soit était mal interprété, soit au contraire avait des trous aveugles. La réponse société à mission, Il faut la placer dans cette séquence historique.
Nadine Levrateau, vous n'avez pas l'air d'accord.
Alors, je suis d'accord sur ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que un meilleur comportement des entreprises, un meilleur traitement des salariés, une meilleure prise en compte de l'environnement, c'est quelque chose qui ne peut être que souhaité. En revanche, moi, je m'interroge sur ce qui va effectivement changer dans les droits des salariés du fait de l'introduction de cet article, parce que en effet la société a mission élargie d'une certaine manière la présence des salariés, mais en même temps, elle s'inscrit dans une série de textes législatifs qui visent à réduire les droits des salariés pour augmenter leur participation à la gouvernance. Et c'est cette tension entre les deux volets qui n'est pas du tout résolue par la loi et qui soulève au contraire des difficultés vis-à-vis de toutes les entités de l'économie sociale et solidaire.
Et puis on peut aussi se demander pour quelles raisons les entreprises se donnerait une raison d'être. Qu'est-ce qu'elles auraient à y gagner, Nadine Levrateau ?
Alors, c'est la question récurrente qui a commencé avec la responsabilité sociale des entreprises. Responsable devant qui ? Puisque c'est un engagement qu'elles prennent et l'effet de ne pas le respecter est uniquement réputationnel. Donc, ça peut être douloureux, mais on a vu que ça se résout assez rapidement.
Donc, la seule motivation, ce serait effectivement d'avoir une bonne réputation. Ce serait la seule chose qui pousserait les entreprises à
parler
de cette raison d'être.
Alors, si c'est comme pour la RSE, en grande partie. Si c'est comme pour la RSE en grande partie, puisque on a vu que les chartes, les engagements avaient une portée terriblement limitée. Ce qui se développe actuellement autour, on a parlé du Rana Plaza, de l'industrie de la mode avec le Fashion Pact qui a été initié par François-Henri Pinault, le groupe Kering et 30 autres grands groupes de l'habillement pour entamer une réflexion sur une industrie de la mode qui soit plus respectueuse des personnes et de l'environnement. Mais le discours est très clair. Alors je cite, il s'agit de réfléchir au sein des entreprises plutôt que de légiférer, réglementer ou labelliser. Aucun détail sur les mécanismes, uniquement du déclaratif. Donc comment va-t-on valider toutes ces actions et devant qui les entreprises vont-elles être responsables ?
Alors, je ne peux pas donner les termes du décret d'application de la loi, nous ne le connaissons pas encore. Mais pour nos auditeurs, il faut être très clair. La société à mission est une qualité. Et cette qualité est accordée par l'État sous conditions. Alors, je voudrais signaler une des conditions les plus importantes et qui, du point de vue, en tout cas, des chercheurs qui ont contribué à cette réforme, est capitale. Dans la théorie classique, celle qui est enseignée, il y a un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration. Eh bien, dans une société à mission, il est important, enfin, la loi impose de créer un autre organe que le conseil d'administration. Et ça, je crois que, en termes d'analyse de pouvoir, on va avoir des choses intéressantes.
Organe indépendant qui serait chargé de contrôler?
Il n'est pas indépendant de l'entreprise, c'est l'entreprise qui le constitue, mais il est différent et distinct. Et c'est lui qui est chargé de vérifier l'évaluation de la mission et du comportement de l'entreprise vis-à-vis de la mission, et de faire une publication de ses rapports, le décret à venir le stipulera. Mais là, je dirais que j'ai envie de renvoyer à ma collègue la question. Où est la théorie d'un double camérisme de l'entreprise ? Ben, on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est la représentation des salariés dans un conseil d'administration. Mais le modèle allemand, par exemple, qu'en France on connaît mal, c'est pas un modèle dans lequel il y a un groupe de directeurs dont certains sont salariés et d'autres sont actionnaires. C'est pas du tout ça. On a deux étages, on a deux organes, un conseil de surveillance et un conseil de direction.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'avec ces innovations, il est encore trop tôt pour juger de l'efficacité.
D'abord, il faut reconnaître la nature. Il faut savoir de quoi on parle. Or, on parle là d'une modification profonde de la gouvernance des entreprises en introduisant un comité à mission. Et le fait qu'il soit trop tôt, oui, mais maintenant, on peut aussi se demander qu'est-ce que ça fait, les modifications en droit ? Eh bien, en 1867, nous aurions pu avoir une réunion sur la libéralisation de la société anonyme. Ce qu'on aurait entendu, c'est c'était les arguments de l'époque, vous libérez la trappe gogo, vous libérez le prospectus, vous allez vendre du papier aux gens. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, nous savons qu'il a fallu, pour donner l'efficacité, faire de la société anonyme un dispositif efficace, toute une série de contrôles. Et je vous parie que dans 2 ans, dans 3 ans, on verra les sociétés à mission avoir un dispositif de contrôle tout à fait nouveau.
Alors on va reparler de cette question du contrôle qui est évidemment essentielle. Mais d'abord, on a vu que l'objectif, c'est que l'activité de l'entreprise ait un impact positif. L'objectif de cette loi PACTE sur les salariés, les fournisseurs, les clients, également l'environnement. Mais alors, qu'est-ce que les firmes peuvent mettre en place concrètement, Nadine Levrato, vous qui avez travaillé sur la rencontre entre entreprises et territoires, parce que l'une des critiques qu'on a pu entendre, c'est que ça n'a concerné finalement que les grandes entreprises.
Alors, ça ne continue de concerner que les grandes entreprises, hein, qui ont depuis longtemps des obligations vis-à-vis du territoire, notamment dans le cas de licenciement, puisque il y a des modalités de revitalisation du territoire qui ont été prévues. Mais avec des exceptions, notamment dès qu'il y a une procédure collective, c'est-à-dire que ces obligations de revitalisation du territoire ne s'appliquent plus quand l'entreprise est défaillante, les entreprises qui veulent y échapper donc utilisent le droit de la défaillance comme un moyen pour réduire les coûts liés au licenciement. La question de la relation entre l'entreprise et le territoire, c'est un autre impensé de l'analyse économique. Armand Atuel a souligné que l'analyse économique avait été terriblement muette en ce qui concerne l'entreprise, d'abord vue comme une fonction de production, ensuite attrapée par les outils managériaux qui viennent des sciences de gestion, des essais de théorisation interviennent. C'est exactement la même chose.
Et vous ne voyez rien dans la loi PACTE qui pourrait aller dans le sens justement d'une plus grande réflexion entre le territoire et l'entreprise?
Alors, non, je ne vois rien qui puisse vraiment aller dans ce sens-là, mais la loi ne peut pas tout non plus, et surtout elle ne peut pas penser quelque chose qui n'est pas clairement défini. L'espace, le territoire a longtemps été vu comme un point par l'analyse économique. On commence à l'introduire comme avec la notion de capital territorial appréhendée avec des indices composites dans l'analyse depuis une quinzaine d'années environ, grâce aux travaux de collègues italiens, Roberta Capello, entre autres, qui permettent de voir comment l'entreprise et le territoire sont consubstantiels. Et l'idée de responsabilité sociale des entreprises, normalement, devrait intervenir à ce niveau-là aussi, puisque le territoire n'est pas seulement un lieu où on puise des ressources, mais ces ressources doivent être renouvelées.
Armand Atuel.
Alors, je vais essayer de convaincre Nadine Levrato que la société à mission est un bon outil d'ancrage territorial. Alors on en a déjà des exemples, puisque une des premières sociétés à mission, qui est la CAMIF, la loi n'est pas encore là, mais elle a annoncé son souhait, a construit sa mission avec ses partenaires territoriaux. Et je voudrais encore à nouveau préciser cette notion de mission. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de promesses que vous faites à un certain nombre d'acteurs, et qui au fond sont là, ces promesses, pour être tenues, mais aussi pour que vous les reconnaissiez comme promesses. Au fond, quelle est la relation théorique entre territoire et entreprise? Je crois que dans la littérature, c'est décrit comme une espèce de relation opportuniste. C'est s'il y a un avantage comparatif du territoire, d'ailleurs le mot, la notion de territoire, vous pouvez dire nation, vous pouvez dire groupe, c'est la même chose. Donc cette relation opportuniste, eh bien, c'est celle dont se plaignent précisément les gens qui, eux, ont construit une vie, ont investi. Regardez, lorsqu'une entreprise s'en va, lorsqu'il y a une décision d'un siège social américain de supprimer une usine dans telle ou telle région, eh bien on a envie de se dire qu'il faut créer les conditions de la pérennité. La société à mission vous permet de dire, madame représentant l'entreprise, au nom de quoi vous êtes là? Si vous êtes là juste parce que vous avez fait un calcul de rentabilité sur 2 ans, ben vous partirez dans 2 ans. Très bien, c'est très clair. Je le sais. En revanche, si je m'aperçois que dans votre mission, vous avez écrit, et mieux que cela, vous m'invitez, moi, représentant territorial dans le comité de mission, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Alors je voudrais dire pour nos auditeurs qu'il y a aujourd'hui un mouvement des entreprises à mission. Donc on peut les voir, on peut les voir travailler, on peut les voir agir.
Mais la question ce sera en effet de savoir jusqu'à quel point les entreprises vont tenir leurs engagements, on en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Don't talk to me about work de Lou Reed sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous poursuivons notre discussion sur la raison d'être de l'entreprise en compagnie de Nadine Levrato et Armand Hatchuel. Alors on l'a vu, de plus en plus de firmes mettent en avant leurs engagements éthiques ou écologiques, mais nombre d'entre elles sont accusées de pratiquer le greenwashing ou le fairwashing, c'est-à-dire le fait de prendre des engagements à des fins purement marketing. Pour la journaliste Catherine Hartmann, Nespresso est passé maître en la matière, on l'écoute.
Ce qui est fou, c'est qu'avec toutes les capsules Nespresso consommées au cours de l'année, on pourrait dresser une montagne de déchets alu de 8000 tonnes. C'est absurde. Et le pire, c'est que tout ça est certifié durable. Chez Nespresso, on vous promet que chaque jour, à chaque tasse de café, vous faites quelque chose de bon pour la planète. À cela s'ajoute le fait que George Clooney vante les mérites de ce produit avec une très belle ironie. On a très envie de le croire parce qu'il est charmant et qu'il est marié avec une avocate spécialisée dans les droits de l'homme. La cible, c'est donc un public très cultivé qui croit avoir une conscience environnementale aiguisée. C'est vraiment fascinant. Plus un produit est destructeur et plus le compte de fées écologique sur ce produit est énorme.
Nadine Levrato, que vous inspirent ces propos de Catherine Hartmann qui a publié un livre intitulé « Le mensonge vert ».
Il est très révélateur de la tension qui existe dans la consommation aujourd'hui et qui est interne à chaque consommateur d'une certaine façon, puisque en chaque individu le désir de consommer plus responsable va cohabiter avec le fait d'aller passer un week-end à Barcelone en prenant l'avion, et donc ces tensions sont illustrées par des produits symboliques. Nespresso en fait partie et en fait, se retrouvent à l'intérieur des entreprises aussi, qui vont jouer parallèlement sur les deux volets, notamment en utilisant des techniques de greenwashing qui sont à la fois nouvelles et terriblement anciennes, puisque lorsqu'on lit par exemple l'histoire du plomb ou l'histoire des cigarettiers et la manière dont ils ont imposé le tabac en sachant très bien que les nuisances sur la santé étaient colossales, révèle bien ces pratiques des entreprises. entreprise.
Alors ça pose effectivement cette question du contrôle qu'on commençait à aborder tout à l'heure et des normes, à l'heure où ces normes se multiplient et où apparaissent des agences de notation spécialisées en RSE, en responsabilité sociale des entreprises. Alors comment s'assurer que les engagements qui sont pris par les entreprises ne se réduisent pas à de simples exercices de communication, Armand Hatchuel ?
Alors c'est précisément la question dont on est parti, hein, le groupe de chercheurs que je représente et dont vous avez eu deux participants hier aussi, qu'on peut appeler le groupe de chercheurs Mine, Bernardin, Nanterre. Ce groupe de chercheurs est parti de ça. On est parti précisément de, le relatif échec de la RSE telle qu'elle avait été pensée, en se disant, encore une fois, je me répète, pardonnez-moi, mais quand on parle de responsabilité, il faut un sujet. Mais c'est qui l'entreprise ? Et la loi Pacte, c'est d'abord reconstituer l'entreprise comme un sujet. Et au fond, reprenons l'affaire de la société à mission. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société à mission ? C'est précisément, prenez par exemple un laboratoire scientifique. Vous vous dites, j'ai un laboratoire scientifique, il est censé faire de la science. D'accord, mais vous avez envie qu'il y ait un conseil scientifique. Vous avez envie que quelqu'un regarde. Vous n'avez pas seulement envie qu'on compte les publications. Vous avez envie que quelqu'un qui regarde les méthodes de ce laboratoire, etc. Eh bien, le principe de la société à mission, c'est là qu'il repose. C'est d'abord, au fond, vous reconnaissez... Alors, toutes les entreprises ne sont pas obligées de devenir société à mission, ni même d'afficher une raison d'être. On est libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais en même temps, c'est un signal. C'est-à-dire, vous envoyez, Nadine Levrateau l'a très bien dit tout à l'heure, elle a dit, et qu'est-ce qui se passe si j'affiche pas de raison d'être ? Est-ce que ça veut dire que j'en ai pas ? Peut-être que vous en avez une, et pourquoi ne l'affichez-vous pas ?
Mais les entreprises ont intérêt à le faire pour justement gagner une meilleure réputation.
Pas seulement.
Pas seulement peut-être, mais elles peuvent le faire dans ces
objectif-là. Inverser l'analyse. Quand inverser l'analyse, en annonçant et en exprimant des objectifs, elles vont donner des verges pour se faire battre. Et c'est donc bien que celles qui vont le faire, vont aller jusqu'au bout, pas nécessairement qu'elles vont tout réussir, mais en tout cas, on met en place dans le dispositif légal, et c'est ça qui est important, quelque chose qui nous sort de la circularité totale du raisonnement dans lequel on est.
Yes. Est-ce que les résultats ne devraient pas primer sur les intentions ? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'intentions affichées. Évidemment.
Les intentions, c'était la RSE, première manière. Vous pouviez afficher un rapport, vous pouviez déclarer que vous aviez passé tous les labels. Les entreprises qui ont participé, malheureusement, de loin peut-être, mais en tout cas, ils ont participé à l'affaire du Rana Plaza, étaient les premiers de la classe, souvent, dans les labels standards de RSE. Et vous voyez qu'à nouveau, j'insiste, si vous ne demandez pas à une entreprise d'exprimer les engagements, si elle exprime ses engagements, alors vous pourrez venir lui reprocher de ne les avoir pas tenus, mais afficher simplement une belle intention, ce n'est pas ce que dit le droit.
Hein, Nadine Levrateau.
Oui, alors plusieurs choses en réaction à ce sujet. D'une part, pourquoi ce serait à l'entreprise de choisir ses propres missions ? Il y a une égalité devant le droit. Qu'est-ce qui justifie que l'entreprise puisse choisir de dire « Oh ben moi, je vais plutôt m'occuper de l'aspect environnemental, moi, je vais plutôt m'occuper de l'aspect social. » Donc, pourquoi c'est l'entreprise qui est...
Quitte à se montrer très vertueuse sur le plan écologique et possiblement très peu sur le plan social.
De ses propres caractéristiques et de son propre process de production. Revenons sur les modalités de suivi de la mission. Donc, pour l'instant, en effet, on ne dispose pas du décret. Il y a des articles qui vont être intégrés dans le code de commerce pour mettre en place justement ce comité de suivi. Il faut qu'il y ait un salarié, il faut qu'il y ait une association. Or, le procès de Nestlé va bientôt s'ouvrir. On sait très bien que les entreprises sont passées maîtres dans l'art de créer des associations. Il y en a beaucoup justement autour du cas de Vittel, où Nestlé crée des associations pour intégrer des bonnes pratiques chez les agriculteurs, leur permettant de consommer moins d'eau, alors que en parallèle, l'entreprise pompe la nappe phréatique de façon non limitée, et donc elle est vertueuse du côté de l'instauration de bonnes pratiques dans l'agriculture, mais beaucoup moins du côté de son process de production et de l'objet de l'entreprise qui est de vendre de l'eau dans des bouteilles en plastique.
Et puis ça pose aussi la question de la performance globale de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise développant une démarche de type RSE ou de type société à mission devient nécessairement plus performante ? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut véritablement instrumentaliser l'éthique en vue de maximiser les profits ? Ça pose toute une série de questions, Armand.
Oui, mais je vous ferai remarquer que le langage lui-même que nous employons, je dirais, appartient un peu à l'ancien monde. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que veut dire performance dans l'entreprise ? Quand vous l'avez formulé, vous avez repris la formule standard, c'est-à-dire, au fond, c'est le profit. Mais vous voyez que c'est cela, au fond, d'une certaine façon, qu'on est en train d'essayer de faire évoluer. C'est-à-dire de dire, non, on essaye de faire émerger des classes d'entreprises dans lesquelles la performance, désormais, au sens même de l'ensemble des éléments qui comptent pour la vie de l'entreprise, pas seulement pour la vie de l'entreprise, de ses salariés, de ses participants, se soit élargi. Parce que, d'une certaine façon, analysons un petit peu nos discours. Si nous supposons que les entreprises sont nécessairement, si vous voulez, telles que nous la décrivons, eh bien, ça donne encore plus raison à la loi Pacte. C'est-à-dire que d'introduire la responsabilité d'emblée dans la définition de la société. Et c'est là, je crois, où, je dirais, la France, une partie de la pensée qui a travaillé là-dessus, a innové. C'est on sort de cette circularité totale dans laquelle on est. Soit les entreprises sont des maximisatrices du profit, et dans ces conditions, il faut qu'on ait un État qui va venir nécessairement les arrêter. Soit au contraire, on se dit, mais non, ça c'est une définition historique de l'entreprise. Qui n'est même plus adapté. D'ailleurs, vous demandiez pourquoi une entreprise va devenir société à mission. Nous sommes tous les deux enseignants. Nous savons bien que nos étudiants n'ont pas envie de travailler dans des entreprises dans lesquelles la valeur actionnariale est la plus dominante. Ils n'ont pas envie de voir un fonds activiste arriver et déstabiliser, comme c'est le cas de General Electric, qui était une des plus beaux fleurons de l'histoire industrielle, se faire déstabiliser uniquement avec 1% du capital.
Mmh. Donc, ils n'ont pas du tout envie non plus d'aller dans une entreprise qui n'aurait qu'une vitrine écologique
exactement.
Ou sociale.
Exactement.
Et alors justement, vous parliez de langage, Armand Hatchuel. Je vous propose d'écouter le philosophe Alain Deneau.
Alors plutôt que de parler de politique, de démocratie, de citoyenneté, d'engagement, de débat, de lutte, on parle de bonne gouvernance. Et là, on anesthésie tout le monde parce qu'on prive le commun du discours politique, du lexique politique qui a été le sien pendant des générations et des décennies et des siècles au profit d'une sorte de jargon managérial qui ne veut rien dire. De l'acceptabilité sociale, ça ne veut rien dire. La gouvernance, ça ne veut rien dire. Le développement durable, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on inonde les gens de termes, même la société civile, qui est un concept qui a été complètement évidé, là, de mots qui ne donnent pas de prise.
Des mots qui ne donnent pas de prise, Nadine Levrato. Est-ce que vous diriez que le langage a contribué à dépolitiser l'entreprise ?
Oui, en grande partie, le langage managérial a eu pour principal objectif de désincarner, dépolitiser l'entreprise en tant qu'institution. Hein. L'entreprise est une institution et tout ce jargon managérial qui tend à euphémiser aussi énormément les choses permet de noyer dans un discours flou toute une série de choses, mais je voudrais revenir à ces notions d'obligation et ce qui peut être gênant au sujet de la société à mission, c'est le peu d'obligations qu'elle crée, contrairement à une société coopérative. Une société coopérative, ce sont des sociétés de type SA, SARL, association, etc., qui vont avoir des obligations claires en termes de détention du capital par les salariés, en termes de réinvestissement dans l'entreprise et pour le territoire, justement, dans une logique d'insertion dans le territoire, qui limite la perception de dividendes. Rien de tel dans la société à mission.
Et puis on peut aussi se demander, dans le sillage de ce que vous dites, Nadine Levrato, si c'est vraiment à l'entreprise de prendre en charge les enjeux environnementaux et sociaux. Et est-ce que, d'une certaine façon, l'État ne se décharge pas d'une responsabilité qui lui incombe directement, Armand Hatchuel ?
Mais c'est exactement l'inverse. C'est l'État qui marque que cette responsabilité est désormais constitutive de l'action de tout le monde. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé, si vous voulez, dans l'histoire. C'est-à-dire que l'État va dire ce qu'est le bon comportement. Alors, j'écoutais Alain Delot qui nous disait il faut en revenir au langage de la démocratie et du politique. C'est tout à fait intéressant et c'est là où il voit de la prise. Mais je pense aussi qu'on peut constater que dès qu'il y a mouvement démocratique, il y a besoin d'action collective. Il y a donc besoin de gouvernance. Ce n'est que dans certaines philosophies que le mot de gouvernance n'a pas de sens. Je voudrais vous renvoyer à l'ouvrage de Pierre Rosanvallon qui s'appelle « Le bon gouvernement » et qui montre que précisément une théorie de la démocratie sans une théorie du bon gouvernement, eh bien malheureusement, ça n'aboutit nulle part, ou alors au fascisme, et qui, lui, restitue le bon gouvernement. Donc je n'ai pas l'occasion de discuter avec notre interlocuteur, mais...
Ce sera peut-être une occasion ultérieure.
Quant à la question, si vous voulez, de pourquoi laisser à une entreprise le soin de se développer ses missions ? Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les entreprises créent un inconnu. Il faut qu'on arrête d'avoir une représentation d'entreprise qui fait circuler des biens sur un marché. Et là, on sait, Nadine Levrato et moi, d'où viennent ces doctrines qui sont partout. Insistons, la représentation qu'a critiqué Nadine Levrato, c'est celle qui est enseignée. Je crois qu'il faut absolument insister là-dessus. C'est pas moi qui dis que l'entreprise maximise le profit. C'est 90% des cours d'économie que l'on donne aujourd'hui dans les facultés.
Et on connaît l'influence de Friedman, pour ne citer Exactement. Que lui.
Et je voudrais donc revenir à cette idée que les entreprises créent des univers inattendus. Et donc, c'est par rapport à ces univers inattendus qu'elles ont des responsabilités. Et là, elles sont les seules à pouvoir le définir. Quand vous prenez un exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les responsabilités des réseaux sociaux. C'est extrêmement difficile pour l'État seul de dire où il faut agir. Et si nous n'avons pas des entreprises qui elles-mêmes sont capables de se définir ce qu'est la bonne vertu, nous allons vers une guerre mais permanente. Et c'est exactement, je vais vous donner un exemple où c'est le cas.
Très rapidement, je voudrais faire
la fiscalité. C'est la fiscalité. Ayant une théorie de la fiscalité issue, je dirais presque du début du XXe siècle, on se trouve totalement paralysé pour définir ce qu'est la fiscalité. Alors on va raisonner sur le chiffre d'affaires, etc. La fiscalité est le bon marqueur de l'épuisement.
La fiscalité qui
sera cadre d'analyse de l'entreprise.
Qui sera notre sujet de demain, Nadine Levrato.
Oui, c'est tout de même assez difficile de confier à une entreprise le soin de définir ce qu'elle doit faire pour garantir le bon fonctionnement d'une sphère qui la dépasse très très largement. Hein. Je voudrais revenir sur les travaux qui ont analysé les relations entre performance financière et responsabilité sociale des entreprises, des méta-analyses qui ont pris en compte plusieurs dizaines de publications. On voit bien que, en tendance, les entreprises, lorsqu'elles ont des difficultés, ont tendance à utiliser la RSE comme moyen d'améliorer leur position sur le marché. C'est un facteur de différenciation, d'un moyen donc de mieux se placer dans un
et de recruter plus facilement, d'attirer des talents.
D'attirer des talents, mais aussi de faire de la différenciation du produit ou du service en disant je suis plus vert que les autres. Et cette instrumentalisation, elle n'est pas empêchée par l'un des nombreux articles, parce que c'est une usine à gaz, cette loi Pacte qui concerne beaucoup de choses, n'est pas empêchée.
Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vais vous demander vraiment de conclure en 20 secondes l'un et l'autre, Armand Hatchell et Nadine Levrato, sur les transformations qui devraient être entraînées par ce concept de société à mission, Armand Hatchell.
Écoutez, je crois que ce concept de société à mission permet de dire qu'on a enfin une voie alternative aux manières classiques de traiter le sujet. Et la manière classique, je crois qu'on l'a aussi illustré, c'est de dire, ben voilà, il y a l'État qui dit le licite, et puis l'entreprise qui se contente de maximiser son profit. Or, c'est ce jeu circulaire qui a provoqué en quelque sorte le greenwashing.
Nadine Levrato.
Il faut accompagner l'entreprise à mission d'une place plus importante pour le droit et la justice, c'est-à-dire doter les parties prenantes de moyens de contrôle objectivés par des tribunaux qui vont s'emparer du droit pour s'assurer que la mission est bien remplie.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffany.
Alors en France, à 2 mois d'un possible Brexit dur, le ministère de l'économie s'inquiète de l'impréparation des PME.
En tout cas, il ne faut pas perdre de temps, a déclaré sur BFM la secrétaire d'État à l'économie, alors que le ministère convoque cet après-midi une réunion à Bercy avec la CPME, la Confédération. Les études macroéconomiques avaient déjà montré que sur 120 000 entreprises potentiellement touchées par le Brexit, elles seraient 20 à 30 000 PME. C'est le chiffre aussi du ministère, qui vante comme solution la frontière intelligente, c'est-à-dire la dématérialisation des formalités douanières. Alors, ces PME seraient-elles mal préparées? C'est vrai que les difficultés sont aussi structurelles, 24 salariés en moyenne, et une certaine incertitude aussi sur la période de transition. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure au téléphone le responsable affaires européennes de la CPME, Alban Madjar.
Bon, c'est vrai que dans une PME, nous, nos adhérents ont en moyenne 23 salariés. Bon, c'est difficile de dire à quelqu'un, bon, du jour au lendemain, tu t'occupes du Brexit parce que il a aussi d'autres choses à faire. Mais pendant longtemps, on a cru à l'accord et découlant de cet accord, une période de transition. Pour le moment, on est dans l'expectative la plus totale et il se peut très bien qu'il n'y ait pas de période de transition. Or, la période de transition aurait permis, je dirais, de beaucoup mieux s'adapter. Là, ça ne sera pas le cas. Ce qui nous préoccupait lors des dernières réunions, c'est que on nous parlait de frontières intelligentes du côté français. Est-ce qu'il y aura le même type de frontières intelligentes du côté britannique?
Les PME préconisent aussi une diversification des approvisionnements et une harmonisation des brevets, Xavier.
Oui, et puis de son côté, l'Union européenne, elle a annoncé hier travailler sur des mesures de soutien également, via le fonds d'urgence pour les catastrophes créé en 2002 après des inondations. C'est curieux, en tout cas, elle pourrait servir en cas de no deal. Mais ce qui pourrait souffrir le plus, eh bien, c'est la convergence industrielle, peut-être plus que les exportations. C'est ce qu'affirme Denise Hunal. Elle est économiste et rédactrice en chef du Panorama du CEPI. Elle avait publié une étude sur la question.
Que les PME sont en particulier concernées dans l'industrie et il y aura un impact immédiat justement donc au niveau des passages, des transports, tout ça, et ça va affecter beaucoup la France. Mais selon un indicateur que j'ai utilisé dernièrement qui s'appelle Grubel & Lloyd, plus de 65% de ces échanges avec le Royaume-Uni sont intra-branches. Alors que la moyenne européenne avec le Royaume-Uni, la moyenne des 28, c'est seulement 52%. Au niveau des chaînes de valeur, parce que les échanges intra-branches, c'est un des symboles des chaînes de valeur là où ça se manifeste, et bien ça, on l'aura pour long terme.
Bon, c'est vrai que non.
On passe au bref. Autre entreprise qui demande du soutien en France, les exploitations agricoles à cause de la canicule. Et voici les premiers chiffres. Plusieurs milliers d'hectares de vignes brûlées par la chaleur dans l'Hérault.
Oui, 11 750 hectares et 1050 exploitations touchées, donc très largement des viticulteurs. Ce n'est pas forcément une moyenne nationale car l'Hérault est le deuxième département viticole de France et le plus touché par la canicule. Mais le Gard voisin a subi des dommages similaires avec des vignes décrites comme, je cite, brûlées par un chalumeau. Des solutions économiques sont en préparation. Et puis la suite, c'est demain, pendant la conférence de presse de rentrée de la FNSEA.
Autre convergence industrielle, un accord de coopération automobile renforcé entre la France et le Japon.
Et oui, communiqué commun des deux ministères de l'économie pour des coopérations industrielles en matière de voitures électriques, moteurs à hydrogène, véhicules autonomes. Manière aussi, je cite le communiqué, de renforcer la compétitivité de l'alliance Renault-Nissan après la crise liée à l'affaire Ghosn. Apaisement diplomatique alors qu'il y a toujours des remous dans la gouvernance. Le même jour, hier, un haut dirigeant proche de Carlos Ghosn quittait Renault-Nissan pour PSA.
Merci beaucoup Xavier, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Nadine Levrato et Armand Hatchuel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la question du juste impôt sur les sociétés. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.